un podcast France Culture.
Malade de l'agriculture, comment prévenir plutôt que guérir? Les pesticides et autres intrants chimiques ont un coût pour la santé et pour la société. Il s'agit là d'un défi sanitaire, social et économique à relever, car les maladies chroniques professionnelles sont en augmentation et des liens ont été établis entre l'usage de ces produits dans le monde agricole et certaines des pathologies développées. Alors aujourd'hui, aux côtés des chercheurs qui œuvrent sur ce terrain depuis des années, des victimes qui se font connaître, des associations qui leur viennent en aide, de nouvelles voix se font entendre, comme celle de 40 responsables de mutuelles qui ont récemment signé une tribune dans le journal Le Monde et qui interpellent le Premier ministre Gabriel Attal suite à la mise en pause du plan Ecophyto. Malade de l'agriculture, comment prévenir plutôt que guérir? C'est le thème de l'émission de ce soir et nous en discutons en direct avec Jean-Noël Jouzel. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes directeur de recherche CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris et co-auteur avec Giovanni Prete du livre « L'agriculture empoisonnée », un livre paru aux presses de Sciences Po. Avec nous également Pierre Le Bailly. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'UFR de santé de l'Université de Caen-Normandie et membre de l'unité INSERM Anticipe au Centre François Baclès à Caen. Et puis avec nous également en distanciel Martin Rieussec-Fournier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes représentant des 14 mutuelles qui se sont justement réunies en colloque au Sénat le 5 février dernier sur le sujet amiante et pesticides, drame d'hier et d'aujourd'hui, quelle solution pour demain? Et puis je précise que dans l'œil du monde planète, la correspondante à Madrid du quotidien Le Monde, Sandrine Morel, nous parlera de la sécheresse dramatique en Catalogne. Elle nous parlera d'adaptation en cours et de responsabilité des autorités. Bienvenue à toutes et à tous, vous en avez l'habitude. C'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, préparé toujours par l'équipe à mes côtés. Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Un salut spécifique, émission réalisée toujours aussi par Alexandra Malka, avec à ses côtés, derrière la vitre, à la technique ce soir, Dalia.
C'était le plan phare du gouvernement pour réduire l'usage des pesticides. L'annonce de sa suspension hier a lancé la polémique. Revendication de certains syndicats d'agriculteurs, la mise en pause du plan Ecophyto a déclenché un tollé du côté des écologistes.
Ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse de l'utilisation des pesticides et que ça ne se fait pas. 15 ans. 15 ans de retard pour la santé des Français. Les agriculteurs n'ont rien gagné puisqu'ils attendaient quand même beaucoup de choses pour leurs revenus. Mais par contre, tout le monde a perdu avec cette réforme.
Car ce n'est pas la première fois qu'Ecophyto est repoussé. Sa première version est adoptée en 2008. Objectif, réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans. Ce sera un échec. En 2015, seconde version du plan, mêmes objectifs, nouvel échec. Le plan Ecophyto 3 devait être annoncé fin janvier. En ligne de mire, une réduction de 50% d'ici 2030.
C'était un extrait de reportage diffusé sur France Info le 2 février dernier. Jean-Noël Jouzel, la crise agricole et puis la mise en pause du plan Ecophyto. Est-ce que vous vous y attendiez?
Alors, les crises agricoles, elles sont pas rares hein, dans notre pays. Elles se succèdent avec plus ou moins d'intensité, évidemment, mais avec une certaine régularité. De ce point de vue-là, elle n'est pas particulièrement étonnée. Ce qui est plus étonnant, c'est plutôt la réaction et la capitulation en fait extrêmement rapide du gouvernement, notamment sur le chapitre des pesticides. Ça, pour le coup, je dois dire que je ne m'y attendais pas.
Et est-ce qu'on peut dire que finalement, ce monde agricole qui donne de la voix hein, est victime aussi d'un choix politique fait il y a 70 ans?
Oui, c'est évident. Oui, L'agriculture d'aujourd'hui, c'est le produit d'une longue histoire. Et si on la raconte très rapidement, il y a évidemment une partie de cette histoire qui s'est intensément écrite dans les années 50, 60, 70, 80, les moments du tournant productiviste de l'agriculture française, qui est pas du tout une histoire qui implique que les pesticides, hein, qui est une histoire qui implique toute une série d'intrants chimiques, mais aussi l'agrandissement des parcelles, la mécanisation. C'est une histoire qui a plein de facettes, mais qui fait système, et c'est ce système aujourd'hui dans lequel est largement emprisonnée l'agriculture française.
Pierre Le Bailly, un système dans lequel l'agriculture française est emprisonnée et depuis, est-ce qu'on peut dire une vingtaine d'années, des travaux, des analyses épidémiologiques et autres ont montré justement une corrélation entre maladies et intrants chimiques. Peut-être que vous pouvez nous en parler et nous dire quelles sont justement les maladies pointées principalement dans cette corrélation.
L'histoire est beaucoup plus longue que ça, c'est-à-dire que effectivement nous on produit des données dans le contexte français depuis une vingtaine d'années, mais l'histoire est documentée même au 19e siècle avec des études de cas chez des viticulteurs avec une maladie grave et que certains médecins associaient à l'usage de pesticides. Mais c'est vrai que l'essor de l'agriculture intensive après dans notre pays après la Deuxième Guerre mondiale a entraîné l'essor important de l'utilisation de pesticides, la diversité des familles chimiques. Et dans les années 70-80, on a commencé à avoir des études épidémiologiques qui pointaient tel et tel cancer en excès chez les agriculteurs, notamment des cancers du sang, les lymphomes, certaines leucémies, les cancers de la prostate, un petit peu plus tard la maladie de Parkinson et d'autres cancers derrière. Mais c'est vraiment ces trois pathologies qui ont été historiquement dans les études épidémiologiques les plus pointées, donc les lymphomes, les cancers de la prostate, les maladies de Parkinson. Et depuis quelques années, et grâce notamment aux expertises collectives INSERM de 2013 et de 2021, on a rajouté à cette liste d'autres, dont des cancers un peu plus particuliers qui sont aussi dans les hémopathies, les myélomes multiples, mais aussi on a vu les cancers des lèvres, le cancer de l'estomac, le mélanome cutané, certains troubles de la fonction cognitive qui laissent craindre que certains pesticides soient aussi associés aux démences de type Alzheimer. Et dans un autre domaine, aussi en présomption forte, des pathologies respiratoires non cancéreuses, comme la BPCO ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est la première cause de cette maladie-là, c'est le tabagisme, et après c'est la pollution des milieux, et a priori aussi l'exposition professionnelle aux pesticides. Donc vous voyez, la liste est longue, hein, des pathologies qui sont depuis plusieurs décennies maintenant associées à l'exposition professionnelle aux pesticides. Donc, entre guillemets, la démission du gouvernement pousse sur le plan Ecophyto. Une des premières victimes de cette décision-là, ça va être les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à tomber malades à cause de l'usage de pesticides.
Et en sachant que si je tiens compte de ce que vous développez aussi, Jean-Noël Jouzel, hein, dans votre livre, que même après 10 ans d'enquête, par exemple, de votre côté, il reste difficile de connaître l'ampleur des problèmes de santé que les pesticides induisent, hein, parmi la main-d'œuvre agricole. Donc on est qu'au début, probablement, de ce que l'on va découvrir sur ces produits qui sont dangereux, mais qui n'ont pas forcément constitué un enjeu de santé au travail. On va en parler. Martin Rieussec-Fournier, est-ce que justement, c'est une question de santé publique, hein, on comprend qu'il y a quand même beaucoup de pathologies repérées, listées. Est-ce que cette question de santé publique risque d'avoir de plus en plus justement de coûts pour la société, au-delà du coût humain?
Alors, en premier, c'est quand même important de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une mutuelle de santé. Donc moi, ce soir, je représente 14 mutuelles. Les mutuelles sont parfois pas très bien connues du grand public. Il peut y avoir des fois des confusions entre des assurances de type AXA, Alliance, qui vont faire de la complémentaire santé, et les mutuelles de santé. La spécificité des mutuelles de santé, c'est que elles sont sans but lucratif, elles sont basées sur la démocratie et l'entraide. Et les mutuelles de santé ont un poids important dans la société française, parce qu'il y a 35 millions de Français qui sont protégés par une mutuelle de santé. Et nous, en fait, les mutuelles de santé, bien sûr, on s'occupe donc de rembourser des dépenses de santé, mais surtout, on a une responsabilité qui nous a été donnée par Ambroise Croizat d'agir au niveau de la prévention. Et donc, Ambroise Croizat, en 1945, a donné ce cadre-là, la mutualité, à sa place marquée dans l'Organisation française de la sécurité sociale. Elle doit être l'élément moteur, l'élément qui prend les initiatives nouvelles et réalise les expériences, qui va de l'avant. Autant vous dire que Aujourd'hui, on est en 2024. En 1962, Rachel Carson, avec son livre « Printemps silencieux », avait déjà quelque part tout dit sur les dangers des pesticides. Et plus de 60 ans après, c'est absolument inédit que 14 mutuelles de santé aient demandé au Premier ministre de prendre à bras-le-corps le sujet des pesticides, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté constater qu'il y a 23 millions de Français qui ont une ou plusieurs maladies chroniques, et de l'autre, qu'on a des pesticides qui ont contaminé l'eau, l'air et la plupart des aliments quand ils ne sont pas bio. Il n'y a pas une étanchéité entre la dégradation de l'état de santé global de la population et les pesticides. Bien sûr, c'est des pathologies qui sont souvent plurifactorielles, mais c'est un devoir moral de supprimer les poisons qui sont connus. Oui. Et nous, Mutuelle de Santé, on a bien connu l'amiante et on voit beaucoup de parallèles entre le scandale de l'amiante et les pesticides.
Et alors, on peut préciser que depuis Rachel Carson, les produits chimiques utilisés sont encore plus dangereux qu'à l'époque de Rachel Carson, qui dénonçait le DDT notamment. Voilà, c'était juste une petite précision. À Monde Agricole, Martin Rieussec-Fournier, on peut le préciser quand même que vous connaissez bien. Je crois que autour de vous, dans votre famille, vous avez été aussi directement touché par la perte de proches.
C'est très important de placer la discussion sur la dimension de l'éthique et après on pourra parler des coûts financiers. Mais moi, donc ma cousine Marie est décédée d'une tumeur au cerveau à 16 ans, mon cousin Sylvain d'une leucémie à 20 ans, un autre collègue aussi, un collègue étudiant est décédé d'une leucémie. Et puis mes parents sont apiculteurs, donc les dégâts sur les abeilles, je les connais et on sait qu'ils sont notamment dus à ces produits chimiques toxiques. Et donc en fait, il faut absolument mesurer l'hécatombe chez les humains et les non-humains. On a quand même 80% des insectes volants qui ont disparu ces dernières décennies et on sait que les pesticides sont une cause de cette hécatombe. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des solutions. On peut organiser une agriculture qui fonctionne sans aucun pesticide et donc c'est notamment une des demandes des mutuelles de santé vis-à-vis de Gabriel Attal.
Alors effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de témoignages aussi aujourd'hui hein, qui se donnent un petit peu plus, en tout cas pour l'opinion publique, des personnes qui témoignent. Parmi eux, je vous propose d'écouter celui de Marie-Lys Bibéran. C'était le 13 avril 2017 sur France Culture. Il faut préciser qu'elle a fondé Info Médoc Pesticides.
Je suis salariée agricole d'abord dans des vignes médocaines. Mon frère était lui-même salarié dans les vignes sur l'Istrac. En 2008, il a déclaré un cancer des voies biliaires intrahépatiques. Il est décédé en octobre 2009 et c'est suite à sa maladie et à son décès qu'en 2011, j'ai engagé une procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle devant les tribunaux à l'encontre de la MSA, de la Gironde, de la Mutualité Sociale Agricole. Et c'est par ailleurs, après avoir creusé le sujet des pesticides, leurs effets sanitaires, de l'exposition de l'ensemble de la population, que je suis devenue ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Pour moi, c'était évident, c'était surtout un besoin viscéral. On est dans la viticulture bordelaise, nous, il y a un poids énorme, point de vue des sommes considérables que représente la viticulture bordelaise, et donc il faudrait se taire. Il était trop tard pour mon frère, mais il fallait le faire savoir. Il faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a à changer les choses. Nous menons des actions pour dénoncer et pousser le monde viticole à se passer des pesticides et à engager une transition vers un autre modèle de viticulture et d'agriculture.
Jean-Noël Jouzel, peut-être une réaction. C'est une personne dont vous parlez dans votre livre.
Oui, c'est un personnage important de l'histoire politique des pesticides et de la mise en cause de leurs effets sur la santé des agriculteurs depuis une vingtaine d'années en France. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à l'extrait d'entretien qu'on entend là, qui il y a une dizaine d'années, si j'ai bien compris, oui, Marie-Lys Bibéran voilà. S'est beaucoup battue pour faire mieux reconnaître les dégâts que causent les pesticides sur la santé des agriculteurs, mais en particulier dans son cas des salariés de la viticulture, parce qu'il y a vraiment un combat aussi qu'elle a mené très fortement et très localement à l'échelle du Bordelais. On peut aussi dire que Marie-Lys Bibéran, c'est quelqu'un qui a, depuis peu de temps, hein, depuis quelques mois, pris un peu de retrait, de distance par rapport à ce combat, ce qui Alors qu'il y a été extrêmement investi et que sa parole était très entendue. Ce qui montre bien aussi l'usure militante qu'il peut y avoir, c'est quand même des combats qui sont aussi épuisants sur le plan politique, pas seulement sur le plan de la santé.
Et on peut préciser qu'elle a aussi fait partie de l'association Phyto Victimes qui a été créée en 2011, mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Je me tourne vers vous, hein, Pierre Lebailly, parce que vous voulez forcément réagir à tout ce qui vient d'être dit sur la situation.
Oui. Alors, plusieurs niveaux, si vous me le permettez.
Bien sûr,
c'est
bien sûr.
Premier élément, malheureusement, la santé au travail n'est pas une priorité de notre pays. Et donc, les agriculteurs, en termes de santé au travail, ne sont pas une priorité des pouvoirs publics, hein, globalement. Pour les cancers, on estime que 5 à 10% des 400 000 nouveaux cancers qu'on a chaque année, au minimum 5 à 10% sont d'origine professionnelle. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait avoir 20 000 à 40 000 cancer chaque année reconnu comme d'origine professionnelle. On en a quelques milliers et essentiellement associés à l'amiante, etc. Alors certes, dans le domaine des pesticides, il y a le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui améliore les choses, mais on est très loin du compte. Et tant que la réparation ne coûtera pas ce qu'elle doit coûter, ça sera un levier de moins pour faire de la prévention. Et donc il y a plein de raisons qui font que la réparation ne fonctionne pas, mais ce n'est pas spécifique malheureusement au milieu agricole. Deuxième élément, vous avez dit que les pesticides étaient encore plus dangereux maintenant. Je pense que c'est largement faux scientifiquement.
Ah.
C'est-à-dire que globalement, il y a quand même des homologations qui existent dans tous les pays riches. Mm-hmm. Et donc en Europe, il y a l'EFSA et en France, c'est l'ANSES. Donc il y a des procédures de mise sur le marché qui ont plein de limites, qui ont plein de points négatifs encore, ça peut encore s'améliorer, mais malgré tout, en termes notamment de toxicité aiguë, ils ont moins de toxicité aiguë que dans le passé, et pour un certain nombre de modes d'action, sont globalement plutôt moins dangereux, reste le bémol d'un certain nombre de pathologies qui sont mal évaluées par les dossiers d'homologation, etc. Mais donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que les pesticides mis sur le marché maintenant
sont plus dangereux que le DDT, c'est ça, à l'époque ?
Tout à fait.
D'accord.
Il y a quand même ces procédures-là. Même s'il y a plein de limites, on pourrait y revenir. Et le troisième point, je citais tout à l'heure l'expertise collective sur les présomptions fortes de lien avec un ensemble de pathologies que j'ai listées. Pour la population générale, les données sont beaucoup moins nettes en termes de pathologies qui sont associées à l'usage, à l'exposition environnementale, notamment les lieux de résidence, etc. Il n'y a pas beaucoup de données probantes parce que c'est encore plus compliqué que pour le milieu agricole, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, les niveaux d'exposition sont plus faibles, c'est en partie par alimentation. Certes, on commence depuis quelques années seulement à avoir des données épidémiologiques qui comparent les effets, notamment en termes de cancer, de ceux qui ont une alimentation avec des aliments d'origine biologique et ceux qui ne l'ont pas. Il y a quelques données, mais pour l'instant, c'est contrasté les résultats. Il y a des études qui montre que ça protégerait l'alimentation d'origine biologique contre les lymphomes, donc ce que j'ai cité tout à l'heure comme étant en lien avec les pesticides. Mmh. Il y a une étude récente au Danemark qui a montré l'inverse. Donc vous voyez, pour l'instant, on commence à avoir des données pour la population générale, mais ce n'est pas du tout avec les mêmes présomptions fortes que l'on a pour la population professionnelle.
Et des données aussi par rapport à ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire on vit aussi dans des environnements où il y a de nombreuses molécules et de nombreux produits aussi qui se couplent.
C'est la force de l'épidémiologie, c'est-à-dire d'essayer de tenir compte des co-expositions. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, ce que ne fait pas l'homologation, concrètement parce qu'il regarde molécule par molécule, mais l'épidémiologie c'est l'exposition en temps, dans la vie réelle. Donc effectivement c'est plus complexe à regarder, mais c'est la réalité. L'homologation c'est simpliste, entre guillemets, si je schématise. Et puis un dernier élément de réaction, c'est pour le déni de certains organismes agricoles. C'est-à-dire que Le modèle agricole qu'a évoqué Jean-Noël, les pesticides sont une des conséquences. Donc si on commence à pointer du doigt que les pesticides entraînent des événements délétères pour les professionnels agricoles, ça met du sable dans l'engrenage. Et donc quelque part, c'est un souci pour certains organismes agricoles, et donc ils font un déni complet. Dire non, il n'y a aucun souci, parce que sinon ça interroge leur modèle de production. Et le syndicat majoritaire français est complètement dans ce déni, par exemple.
On va en parler du déni. Je vais tout d'abord me tourner vers Martin Rieussec-Fournier qui veut réagir.
Alors, effectivement, moi je souhaite rappeler les demandes que les mutuelles de santé ont fait à Gabriel Attal à deux sujets. Le premier, c'est le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Il a été mis en place il y a 3 ans et quand il a été mis en place, il a été évalué à 10 000 personnes le nombre de victimes qui devaient en bénéficier. 3 ans après, il y a uniquement 1000 personnes qui l'ont sollicité. Et donc, c'est absolument anormal parce qu'il y a un défaut de communication majeur autour de ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Et donc, nous, on demande à Gabriel Attal qu'il y ait une communication très large qui soit faite vers les agriculteurs, vers les médecins. Deuxième point concernant les pesticides, et donc je viendrai en complément de ce qu'a dit Monsieur Le Bailly, nous, Mutuelle de Santé, nous sommes extrêmement choqués que la loi sur l'homologation des pesticides ne soit pas appliquée. Aux États-Unis, Bayer Monsanto a été condamné à verser une amende de 10 milliards de dollars à 100 000 victimes. Et pourquoi les juges américains ont condamné Bayer Monsanto à 100 milliards, à 10 milliards pardon pour 100 000 victimes, c'est parce qu'en fait Bayer Monsanto savait que dans le Roundup notamment, il y avait des molécules extrêmement dangereuses qu'ils ont cachées. Et de l'autre côté de l'Atlantique, quand Paul François a gagné contre Monsanto, c'est quelques dizaines de milliers d'euros.
11 000 et quelques.
En fait, les mutuelles de santé, nous demandons à ce que la loi soit appliquée. Et aujourd'hui, dans les bidons de pesticides, l'industriel lui-même dit « cette molécule est active, faites-moi confiance pour le reste, c'est des adjuvants » et en avant. Et en fait, la Cour de justice de l'Union européenne a établi en 2019 que la loi n'était pas appliquée. Le directeur de l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, l'a reconnu devant le Parlement européen. Et donc les bidons de pesticides tels qu'ils sont vendus aux agriculteurs ne respectent pas la loi. Nous, Mutuelle de Santé, nous trouvons que ce n'est pas acceptable parce que quand des études recherchent ce qu'on trouve dans les bidons de pesticides, on trouve des hydrocarbures hautement dangereux, on trouve des métaux lourds, notamment de l'arsenic, et donc en fait, il y a des grandes défaillances par rapport à l'application de la loi.
Alors, qui veut réagir ? Jean-Noël Jouzel, et ensuite je me tourne vers Pierre Le Bailly.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Martin qui peuvent appeler à un commentaire. Peut-être un tout petit mot, on y reviendra peut-être, sur ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides créé il y a 3 ans.
Donc visiblement méconnu. Hein.
Méconnu, Martin a très bien dit, méconnu des agriculteurs, méconnu aussi des médecins. Ça, c'est très important parce que dans ces affaires-là, les médecins jouent le rôle souvent d'intermédiaire indispensable entre la pathologie et le droit, entre le patient et puis ses droits. C'est-à-dire que il y a un phénomène massif de non-recours au droit, c'est évident. Alors ce chiffre de 10 000 victimes potentielles qui pourraient avoir droit à ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui, rappelons-le, est réservé uniquement aux situations d'exposition professionnelle, ne concerne pas par exemple les riverains. Alors ce chiffre de 10 000, il est sans doute éminemment discutable, hein, mais enfin c'était une estimation à la louche, assez grossière, mais qui donne quand même une idée du volume potentiel de personnes qui pourraient avoir droit à la reconnaissance. On est effectivement loin du compte. On est loin du compte notamment parce qu'il y a beaucoup de spécialités médicales qui sont concernées par les pathologies qui sont indemnisables par le biais de ce fonds d'indemnisation qui, en fait, connaissent très mal la littérature épidémiologique que Pierre a mentionnée sur les liens entre exposition professionnelle aux pesticides et santé. C'est le cas des neurologues qui connaissent pas forcément très bien le lien entre Parkinson et exposition professionnelle aux pesticides. C'est le cas des urologues qui connaissent pas très bien nécessairement le lien entre le cancer de la prostate et l'exposition professionnelle aux pesticides. C'est le cas aussi des pédiatres qui connaissent pas nécessairement bien les effets des expositions professionnelles périnatales aux pesticides sur la santé de l'enfant par la suite.
Donc ça veut dire défaut d'information des médecins donc qui pratiquent, et est-ce qu'on peut dire aussi problème de formation aussi des médecins et des spécialistes?
C'est évident, Pierre disait tout à l'heure que la santé au travail n'est pas une priorité en France, ça se décline à plein de niveaux et ça se décline au niveau des études de médecine de manière absolument évidente. Rappelons quand même que la médecine du travail est la discipline la moins prestigieuse en médecine, c'est celle qui est choisie en dernier à l'internat, le concours classant national. Et que de manière générale, la formation des médecins en matière de santé au travail est extrêmement limitée et lacunaire. Mais c'est pas qu'un problème de formation, c'est aussi un problème de ressources. C'est-à-dire que quand les médecins font face à d'éventuelles demandes de leurs patients sur la cause possible des pathologies, la cause environnementale, la cause professionnelle, quand ils reçoivent un patient agriculteur qui s'interroge sur le lien entre son cancer du sang, son Parkinson, l'exposition aux pesticides, Bien souvent, ils se sentent aux limites extrêmes de leur juridiction. Et ils se sentent un peu mal à l'aise pour répondre à ce genre de questionnement, parce qu'ils sont effectivement mal formés, mais surtout, ils ne voient souvent pas très bien vers qui se tourner. Il existe dans tous les CHU de France des consultations de pathologie professionnelle qui ont pour vocation d'être des consultations de recours, hein, qui peuvent répondre à ce genre de questions que peuvent se poser des patients comme des médecins qui ont un soupçon mais qui n'ont pas les moyens d'aller l'étayer. Mais elles sont souvent mal connues, elles aussi, et sont souvent mal identifiées par les confrères médecins.
Et alors, dernier point, les médecins qui travaillent, par exemple, pour la MSA, ils sont formés ou pas?
Oui, les médecins du travail de la MSA sont formés. Après, pour avoir pas mal enquêté auprès d'eux, beaucoup estiment quand même qu'ils ont une formation lacunaire, qui est souvent très centrée sur la question des intoxications aiguës dès lors qu'ils abordent les pesticides, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres risques professionnels en agriculture, hein, notamment des risques physiques. Donc souvent, ils estiment avoir des connaissances un peu lacunaires sur la question des risques chroniques, la question des effets cocktails, etc. Toutes ces questions qu'on a abordées depuis le début de l'émission. Mais ils sont formés, oui, on peut pas dire qu'ils sont pas formés.
Mais on comprend le parcours du combattant et on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a quand même pas mal de freins. Et déjà, le frein du propre malade, parce que se nommer malade, ça ne va pas de soi. On va en parler. Pierre Le Bailly, vous voulez peut-être nous apporter d'autres éléments, justement, sur ces questions-là.
Oui, compléter un peu ce que vient de dire Jean-Noël. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je voudrais compléter. Donc, la crise de l'hôpital, on la connaît. Donc, il y a un manque cruel d'hospitalo-universitaires dans les services de santé au travail et de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc, il y a une file d'attente qui est longue, et sur des pathologies au long cours, le patient, il n'a pas envie de passer du temps à attendre des consultations. Certaines fois, c'est une maladie létale, et donc la possibilité de consultation arrive beaucoup trop tardivement. On a montré avec d'autres collègues, notamment sur le cancer du poumon, que ça serait assez simple d'organiser des choses qui déchargeraient les cliniciens de l'interrogatoire auprès des patients pour voir si tel et tel patient serait susceptible d'avoir une reconnaissance de maladie professionnelle, avec une aide d'un ou d'une assistante sociale pour le décharger des tâches administratives, parce que le patient, sa préoccupation, c'est de survivre de sa maladie et de lutter contre la maladie. Là, on lui met en plus des tâches administratives avec des consultations, de veiller à ce que le dossier soit bien rempli au niveau administratif auprès de la sécurité sociale, etc. Et c'est pas son rôle. Il est déjà potentiellement victime d'exposition professionnelle, et on lui met encore des tâches administratives à faire. Donc il y a des choses qui existent, il y a des expérimentations qui ont été faites, mais il n'y a aucun moyen de donner de façon pérenne, ni dans les centres anticancéreux, ni dans les CHU, pour être à la hauteur des enjeux de santé au travail dans le domaine des pesticides, mais dans d'autres. Et la médecine du travail, ils sont formés. Sauf que la plupart des pathologies qu'on a nommées arrivent quand la personne est à la retraite.
Eh oui. Donc là, ça se déclenche plus tard, bien sûr.
N'est plus à ce niveau-là. Donc il y a aussi ce souci-là. Et puis, il y a dans le milieu de l'agriculture, comme dans plein d'autres milieux, il y a l'évolution de l'emploi agricole, et il y a de plus en plus de saisonniers, de plus en plus de travailleurs détachés qui échappent complètement au radar de la santé au travail.
Et oui, et qui eux-mêmes, s'ils veulent entrer en procédure et monter un dossier, souvent ne reçoivent pas des informations de leur ancien employeur, qui peine un peu à leur donner les éléments par rapport aux produits auxquels ils auraient été exposés.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on le voit particulièrement parce que quand on parle de pesticides, on parle souvent du milieu agricole, mais dans des enquêtes qu'on a fait en population générale, il y a quasiment la moitié des professionnels exposés en France aux pesticides qui sont en dehors du milieu agricole. Mmh. Et là, c'est encore plus compliqué pour eux. Là, j'ai eu récemment au téléphone une fleuriste qui avait un myélome multiple et qui avait assisté dans une association de patients atteints de myélome multiple, qui avait entendu parler du tableau de maladie professionnelle et qui a commencé à s'interroger. Elle n'utilisait pas de pesticides elle-même, mais là, demain, c'est la Saint-Valentin, si je ne m'abuse, et on va beaucoup offrir des roses. Elle est rose, elles sont cultivées en Afrique subsaharienne, avec l'utilisation massive de pesticides qui sont en plus interdits dans nos pays parce que en général on ne mange pas les fleurs, donc il n'y a pas de limite maximale de résidus. Et quand vous êtes fleuriste, vous manipulez énormément de fleurs et vous vous contaminez par les pesticides simplement en manipulant les fleurs.
C'est le cas de femmes, hein, et vous et Jean-Noël Jouzel, vous montrez aussi dans vos travaux que il y a plus d'hommes d'ailleurs qui font des démarches que de femmes, parce que souvent les femmes, compliquées de se reconnaître, alors comme victimes peut-être, mais aussi compliquées de montrer qu'elles-mêmes ont été exposées d'une autre manière en fait, hein, en manipulant des produits ou des biocides dans les fermes pour désinfecter, nettoyer les espaces, pour l'hygiène animale, les soins vétérinaires, etc., nettoyant les vêtements des maris ou conjoints pleins de produits, manipulant les végétaux traités, etc. Et tout cela, il faut aussi aujourd'hui en parler par rapport aux femmes.
Oui, oui, l'exposition aux pesticides, fut-elle professionnelle, elle est multiple et elle a des degrés de visibilité très très hétérogènes. C'est pas voilà. Pierre mentionnait ici la situation des fleuristes. C'est probablement une situation très préoccupante pour toutes les raisons qu'il vient de donner, mais qui est une situation qui est très en dehors des radars. À ma connaissance, je pense pas que ça fasse partie des priorités des campagnes de prévention de la médecine du travail que de se préoccuper de ces personnes qui sont bien souvent des femmes. C'est un métier qui est très genré, sont en contact avec des végétaux traités, donc qui ne voient jamais de pesticides, qui ne manipulent pas de bidons de pesticides, qui ne soupçonnent pas qu'elles sont exposées aux pesticides et qui le sont en fait de manière probablement importante parce qu'elles manipulent ces végétaux, elles les manipulent sans gants, je pense, de manière très, 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 très générale. Et c'est la même chose en agriculture. Il y a beaucoup de situations qui exposent aux pesticides et qui n'apparaissent pas comme telles, parce que les pesticides ont cette fâcheuse tendance à ne pas disparaître une fois qu'ils sont épandus. Ils restent sur les végétaux traités, ils restent sur le feuillage. Et dès lors qu'on intervient dans des cultures et qu'on entre en contact avec les végétaux qui ont été traités, avec les feuillages sur lesquels il y a des résidus, ben, il y a des niveaux de contamination qui peuvent paraître comme ça négligeables, mais qui ne le sont pas du tout, notamment quand on les somme à l'échelle d'une année entière, quand des gens font des tâches très fréquentes dans des parcelles traitées, et ils s'exposent de manière importante.
Martin Rieussec-Fournier.
Oui, moi je souhaiterais prolonger la discussion sur le sujet des victimes et de comment on peut les aider à obtenir leurs droits, notamment par rapport au fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Mmh. Et les 14 mutuelles de santé ont travaillé main dans la main avec des associations qui soutiennent les victimes, tant du côté de l'amiante que des pesticides. Et je tiens à saluer le travail des associations phytovictimes, la FNAT et le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Parce qu'en fait, c'est vraiment un travail extraordinaire qui est réalisé et bien souvent qui pallie au déficit des responsabilités de l'État pour faire connaître justement le droit aux victimes. Et notamment, l'association phytovictimes a fait des posters pour les mettre dans les salles d'attente des médecins. Et on voit à quel point, effectivement, il y a les fleuristes, mais il y a aussi des métiers de la construction. Dans le bois, il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, et ça peut être des gens qui sont scieurs, qui sont charpentiers, et qui vont être concernés par ces pathologies. Et nous, on s'est rendu compte que, en tout cas pour les mutuelles, le fait de s'appuyer sur la victoire de l'interdiction de l'amiante permettait un imaginaire positif par rapport aux pesticides, parce qu'aujourd'hui, les pesticides, en fait, on se rend compte qu'il y en a partout, dans notre corps, dans l'air, à des degrés divers, etc. Et on peut très vite se retrouver avec un sentiment de fatalité. Or, ce qui est nécessaire, c'est d'organiser la sortie des pesticides. Et donc, en fait, le parallèle entre l'amiante et les pesticides, l'amiante, on a réussi à l'interdire en 1997, alors qu'on a eu la première étude « L'amiante tue » en 1906, donc il y a eu 90 années nécessaires pour que s'accumulent les données scientifiques, elles soient confirmées, les victimes s'organisent, le droit avance, il y a eu un nombre de procès conséquents et enfin l'interdiction en 1997. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire qu'on sorte des pesticides. Je rappellerai une donnée sanitaire dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est que chez les hommes, suivant les études, on a entre moins 50 et moins 75% au niveau du nombre de spermatozoïdes par rapport à 1945. Et on sait que les pesticides sont un facteur
joue sur la fertilité. Oui.
Voilà.
Exactement.
Donc en fait, on est sur un enjeu qui est absolument vital pour la suite de l'aventure humaine sur Terre. Et donc, moi, je trouverais intéressant dans cette fin d'émission qu'on parle des solutions
pour
sortir des pesticides.
C'est prévu, Martin Rieussec-Fournier. Et par contre, j'ai une question quand même à vous poser, parce que les auditeurs doivent se la poser. Est-ce que la MSA fait partie des 14 mutuelles?
Pas encore, parce qu'en fait, à ma connaissance, la gestion de la MSA se fait avec, autour de la table, aussi des représentants de la FNSEA. Et la FNSEA, il faut absolument qu'elle ouvre les yeux par rapport au fait que les premiers qui meurent des pesticides, c'est les paysans eux-mêmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. De toute manière, on est sur un modèle agricole qui, avec ses 40, 50, 60 000 tonnes chaque année de pesticides, tue les insectes. Mais c'est aussi un modèle agricole qui n'est pas résilient par rapport aux aléas climatiques. Donc, on a un énorme enjeu pour la santé des agriculteurs, la santé du climat, la santé publique, à changer de modèle agricole du tout au tout.
Ouais, changer le modèle agricole et puis aussi besoin de faire connaître, de faire reconnaître les dangers, malgré tout, de continuer à informer si nous voulons dessiner le monde d'après tous ensemble.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
Allez, je suis sûre que vous aurez tous reconnu ce choix proposé par Martin Rieussec-Fournier, les Beatles, All You Need Is Love, avec un joli message qu'il nous donne aujourd'hui pour l'émission De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre discussion sur les malades de l'agriculture, comment prévenir plutôt que guérir, un défi sanitaire, social, économique aussi à relever pour la société. Nous sommes avec Jean-Noël Jouzel, directeur de recherche CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Et je précise qu'avec Giovanni Prête, vous avez écrit « L'agriculture empoisonnée » paru aux presses de Sciences Po, tout juste sorti. Hein,
oui, il y a quelques semaines.
Pierre Bailly aussi avec nous, enseignant-chercheur à l'UFR de santé de l'Université de Caen, Normandie, et membre de l'unité INSERM Anticipe au Centre François Baclès à Caen. Et Martin Rieussec-Fournier, représentant des 14 mutuelles qui sont réunies en colloque au Sénat le 5 février dernier sur le sujet amiante et pesticides, drame d'hier et d'aujourd'hui, quelle solution pour demain?
Plus de 30 ans qu'il tient son stand chaque semaine sur le marché de Soissons. Et même à la retraite, Jean-Claude répond présent pour vendre fruits et légumes.
Le travail fait partie de mes loisirs, alors j'ai du mal à décrocher. Je suis un petit peu moins ardent qu'avant. Hein. J'ai perdu pas mal de vitalité, disons.
Car depuis 2018, Jean-Claude a déclaré la guerre à l'entreprise Monsanto, aujourd'hui racheté par le groupe Bayer, qu'il considère responsable de son cancer de la prostate. Pendant 40 ans, il a utilisé plus de 700 litres de Roundup pour désherber les abords de ses serres et ses champs.
Quand je suis avec le petit tracteur ici, oui, on en inhale, hein, c'est sûr. Hein. Même avec un masque. Hein. Il y a d'autres agriculteurs qui sont touchés aussi. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne se préoccupent pas de leur santé, ça très certainement. Mais je suis certain que beaucoup d'agriculteurs sont atteints.
De nombreuses analyses attestent d'une quantité importante de glyphosate dans les urines et dans les cheveux de l'agriculteur.
Je me bats pour quelque chose. Parce que avoir un cancer et ne plus avoir de prostate avec tous les gènes qu'on subit chaque jour, y compris la vie privée, c'est important de demander réparation.
Maître Emmanuel Ludo, l'avocat de M. Terlet, espère un procès pour le printemps prochain. Pour lui, cette affaire aura une résonance politique.
Terlet est quasiment le seul agriculteur européen à mener ce combat de taille. Et c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu très important pour Bayer qui ne peut pas se permettre de perdre ce procès.
Jean-Claude Terlet, lui, reste déterminé.
Je serais peut-être mort avant la fin de ce procès, mais on verra bien. C'est vrai que je me bats contre un géant.
Reportage diffusé sur France 3 le 6 janvier dernier. Jean-Noël Jouzel, vous en avez recueilli des témoignages, parlé de ces drames de vie. Et en même temps, ces personnes qui sont des victimes, on a compris, hein, aussi d'un système, c'est extrêmement difficile, pas forcément accompagné ou mal accompagné, pour les différentes raisons dont nous avons parlé depuis le début de l'émission. Mais quand on leur demande peut-être, est-ce que vous êtes prêt à changer votre mode d'agriculture, la réponse, elle peut être surprenante.
Oui, c'est ce qu'on montre dans le livre avec Giovanni Prez. Nous, on s'est intéressé à ces parcours d'agriculteurs comme ce monsieur que je ne connais pas, mais on en a croisé beaucoup, hein, qui à un moment donné de leur carrière, souvent à l'âge de 45, 50, 55 ans, peu avant la retraite, mais ça peut évidemment arriver après, mais c'est plus étonnant et donc plus interpellant quand ça arrive avant, vont se trouver frappés par une maladie chronique lourde, maladie de Parkinson, un cancer du sang, quelque chose à quoi ils s'attendaient pas du tout. Souvent à un moment où ils sont parfois plutôt en pleine bourre sur l'exploitation, ils ont souvent récupéré l'exploitation familiale, ils l'ont agrandie, ils ont accentué la mécanisation, ils ont utilisé beaucoup de pesticides, ils ont beaucoup produit. Ils ont le sentiment d'avoir une vie plutôt meilleure souvent que celle de leurs parents, et les voilà frappés par la maladie. Et peut s'enclencher alors, mais pas systématiquement, mais un parcours, mais qui est souvent long, qui est jalonné d'étapes. La première de ces étapes, évidemment, c'est de prendre conscience du fait que la maladie potentiellement est liée aux pesticides, et c'est pas évident aujourd'hui, ça l'était encore moins il y a 10 ans, au moment où on a commencé notre enquête, et où il y avait moins d'informations qui circulaient dans le milieu médical, justement. Mais une fois qu'on a pris conscience du lien entre les pesticides et la santé, ça va pas de soi de courir au droit pour autant et de se tourner vers, par exemple, un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Ça ne va pas de soi, notamment parce que on y reviendra sans doute, mais tout le système de prévention des risques professionnels liés aux pesticides repose sur l'idée que c'est d'abord à l'agriculteur de se protéger lui-même en portant des gants, des combinaisons et en respectant à la lettre les préconisations qui sont mentionnées sur l'étiquette des produits phyto. Et donc, dans un premier temps, souvent, les agriculteurs malades, quand ils s'estiment malades des pesticides, vont plutôt avoir tendance à s'imputer la responsabilité de leur malheur à eux-mêmes, ce qui freine leur possible recours au droit. Et puis ensuite, recourir au droit, c'est pas évident, parce que, en fait, tous ces dispositifs légaux dont on parle de reconnaissance ont beaucoup de limites, et donc sont parfois très insatisfaisants. Mais bon, une fois que tout ce parcours est fait, on pourrait s'attendre à ce qu'en toute logique, ces agriculteurs se disent, bon, je suis malade à cause des pesticides.
Et oui, qui portent une autre agriculture, en fait.
Voilà,
hein.
je vais changer de modèle agricole, je vais convertir mon agriculture, mon exploitation au bio, je vais militer pour l'interdiction radicale de ces produits qui m'ont empoisonné. C'est parfois le cas, hein. Mais c'est loin d'être systématique. On a aussi vu beaucoup d'agriculteurs qui ont fait tout ce parcours, mais ne sont pas allés, tout ce parcours de reconnaissance de soi-même comme une victime des pesticides, mais ne sont pas allés jusqu'à radicalement changer leur pratique. Loin de là, continuent à utiliser des pesticides alors même qu'ils en ont été malades.
En réduisant quand même.
Souvent en réduisant, souvent en faisant plus attention qu'avant, donc en portant, en étant plus précautionneux du point de vue du port de vêtements de protection. Mais c'est une réponse qui est très très limitée en fait à la problématique de l'exposition aux pesticides et qui présente qui est très très problématique. Mais ce que ça montre, cette difficulté à changer, c'est que ça va vraiment pas de soi. Ça va évidemment pas de soi quand on est malade, qu'on est chef d'exploitation et qu'on est affaibli par la maladie. Mais même quand on en sort, ça va toujours pas de soi, mais parce qu'on est héritier d'un système. on est héritier d'une exploitation et de façons de faire qui sont très ancrées. On est aussi l'agriculteur n'est pas tout seul, c'est un métier chef d'exploitation, mais évidemment c'est des travailleurs qui sont statutairement indépendants, mais en réalité c'est des travailleurs qui sont dépendants d'énormément de choses en amont, en aval. Tout ce qu'ils font est très conditionné par l'agrofourniture et puis par la possibilité qu'ils ont d'écouler ce que eux-mêmes produisent, et tout ça rend très compliqué le changement de système.
Oui, en tout cas, la solution ne vient pas forcément d'un mouvement de ce collectif. Je vais prendre justement le témoignage de Martin Riossec-Fournier. Vous voulez intervenir ?
Oui, je pense que c'est important de rappeler que effectivement, c'est un changement qui implique un nouveau projet agricole. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est que actuellement, il y a de l'ordre de 500 000 agriculteurs en France. Ils étaient 7,5 millions en 1946. Et sur les 500 000 agriculteurs actuels, il y en a la moitié qui partent à la retraite dans 10 ans. Donc en fait, au niveau sociétal, on a un énorme enjeu à se dire quelle est l'agriculture que nous voulons dans 10, 20, 30 ans, quel paysage on souhaite dans 10, 20, 30 ans. Parce qu'en fait, si c'est une agriculture qui est extrêmement mécanisée, où c'est des semences qui sont les mêmes partout, avec énormément d'intrants, ça va bien évidemment colorer notre paysage, ça va colorer notre gastronomie, etc. Donc, autour des questions sanitaires liées aux pesticides, il y a aussi des questions du nombre d'agriculteurs, de comment on sécurise leurs revenus. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait autant d'agriculteurs qui soient à ce point-là en détresse. Donc, il y a tout un système soutenant de la part de la société vers les agriculteurs pour les aider à faire évoluer les pratiques. Là, ce qui est dommage, ce qui est terrible avec Gabriel Attal et au niveau européen aussi, hein, parce que les reculs qu'on a en France, on les a aussi au niveau européen, c'est qu'en fait, il y a une régression absolue, tant pour les agriculteurs que pour la santé publique, alors qu'on devrait être, au contraire, à favoriser la mise en place de haies, de diversité de semences, favoriser les circuits courts. Je rappellerai que, par exemple, les mutuelles de santé ne demandent pas la lune à Gabriel Attal. On demande l'application de la loi Egalim. C'est 20% de bio obligatoire dans la restauration collective. Actuellement, on est à 7% de bio en moyenne dans la restauration collective. Donc là, c'est un levier concret pour qu'il y ait moins de résidus de pesticides dans notre environnement et des débouchés pour ceux qui ont fait le pas d'être en bio. Et le gouvernement n'en fait absolument pas une priorité de respecter cette loi. Donc en fait, je voulais resituer ça par rapport à l'agriculteur avec tout son héritage, la formation qu'il a eue. C'est évident qu'il ne faut pas compter que sur sa bonne volonté pour se passer des pesticides.
Bien sûr. Et ça questionne aussi justement la formation dans les lycées agricoles. On a parlé de former et d'informer les médecins, mais aussi les vendeurs, les agents techniques, les personnels dans les coopératives, les négoces, les conseillers agricoles, etc. Il y a tout ce travail. Pierre Lebailly, on a évoqué aussi, Jean-Noël Jouzel parlait des protections. Vous avez travailler sur ce sujet-là, peut-être que, parce que certains vont dire, la solution, ce sont les protections. En fait, vous avez montré le contraire.
Oui, tout à fait. On a participé à montrer le contraire lors de l'utilisation de pesticides parce que, effectivement, comme le disait Jean-Noël, on redonne la responsabilité de la gestion de son risque à l'agriculteur parce que on lui dit mettez toutes les protections et tout ira bien. Donc on a montré il y a 20 ans maintenant que en fait les combinaisons qui étaient mises sur le marché comme étant protectrices contre les pesticides ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'avaient jamais été testés pour être efficace contre les pesticides. Donc ça, c'est quand même un souci. Et deuxièmement, on se pose pas la question, alors là, c'est pas pour l'utilisation, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait une homologation, donc c'était plutôt une force, mais il y a beaucoup de faiblesses encore dans l'homologation. Et je prends juste un exemple de l'exposition lors de la réentrée, c'est-à-dire le contact avec les végétaux traités, que Jean-Noël a montré que historiquement, ça a commencé dès les années 60 en Californie pour montrer qu'il y avait des expositions très importantes à ce stade-là. La réglementation européenne, alors que c'est identifié de façon académique depuis les années 60, la réglementation européenne des pesticides n'a commencé à prendre gentiment très petitement ça en compte en 2003 dans le cadre de l'homologation. Et maintenant, vous avez des produits qui sont mis sur le marché avec un risque acceptable si la personne, quand elle est en plein soleil au mois de juin à faire des tâches de rentrée en vigne ou en verger, avec une combinaison couvrante complète. Ils vont dire, oui, c'est une combinaison respirante. Eh bien, je mets au défi toute personne d'être 8 heures avec une combinaison complète, en plein soleil, et de tenir ça. Ce n'est pas tenable. Et on dit que le risque est acceptable comme ça. On sait très bien que ce n'est pas faisable. Et on dit, mais c'est pas notre problème. On a évalué le risque avec un port de combinaison. Ce n'est pas la réalité. Ben, c'est pas grave. Donc ça, c'est un premier élément. On a fixé aussi des délais de réentrée avant de revenir dans les parcelles. Ils ont été fixés de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire 6 heures, 24 heures, 48 heures. On sait, il y a des études qui montrent qu'une semaine, 10 jours, 15 jours après un épandage, il y a toujours des quantités importantes sur le feuillage. Donc ça, c'est complètement à côté des conditions, des connaissances académiques. Et je reviendrai sur les témoignages. Éric Guéret, un de vos collègues, avait fait un documentaire « La mort est dans le pré » il y a quelques années et avait suivi des personnes que Jean-Noël a suivi également. Concrètement, ce que l'on voit aussi dans ce documentaire, c'est que ils ont un défaut de connaissance sur les circonstances d'exposition. On voit par exemple un pulvérisateur qui déborde avec quelqu'un qui est complètement, avec un salarié viticole, qui est complètement protégé, mais il laisse déborder son pulvérisateur. À quelqu'un qui met des gants, mais il ne sait pas comment les enlever. En fait, il y a un défaut de formation des agriculteurs sur les circonstances d'exposition. Il y a un défaut d'évolution du machinisme en prenant en compte le risque chimique. Les pulvérisateurs n'évoluent quasiment pas parce qu'on laisse le machinisme tranquille avec des pulvérisateurs qui sont inadaptés pour protéger correctement la personne, etc. Donc on met tout sur l'agriculteur, oui, ou ouvrier agricole, et rien sur la prévention collective, la prévention en amont par l'homologation, parce qu'on peut se faire plaisir en disant il faut interdire tous les pesticides demain, mais ça ne sera pas demain qu'ils seront interdits. Donc moi, je souhaite être pragmatique, c'est qu'on a encore quelques décennies devant nous, avec des gens qui vont continuer à être exposés aux pesticides, même si on doit aller vers une diminution. Il y a plein d'expertises collectives de l'INRAE et autres qui montrent qu'on peut réduire de façon drastique l'usage de pesticides et la dépendance, et ça aura plein d'effets positifs, comme le dit Martin, mais ça va mettre du temps.
Oui.
Et si on se donne les moyens, c'est faisable. Mais pendant ce temps-là, il y aura toujours des gens exposés. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là?
Mais oui,
pour l'instant, on ne fait pas grand-chose.
On fait porter le risque zéro sur les agriculteurs, Pierre Le Bailly, alors que ce n'est pas possible. L'exposition zéro n'existe pas. À ce stade de l'émission, restez avec nous. Il est temps et l'heure de retrouver juste l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Je sais qu'on aurait encore plein de choses à dire, mais on arrive presque au terme de l'émission. Nous sommes avec Sandrine Morel, correspondante du quotidien à Madrid, pour parler de la sécheresse en Catalogne, des restrictions d'eau, de l'adaptation et aussi de la responsabilité des autorités. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Aurélie. Est-ce que vous imaginez Barcelone approvisionnée en eau potable par bateau-citerne? Eh bien, on s'y prépare. Après plus de 3 ans de sécheresse intense et de températures records, de déficit de pluie et de neige, les barrages, qui servent d'ordinaire de réservoir d'eau pour les mois chauds, se trouvent à un niveau très bas, à 15% de leur capacité. Par conséquent, s'il ne pleut pas d'ici au mois de juin, et les prévisions ne sont pas optimistes, la situation sera très grave dans la capitale catalane. La semaine dernière, le gouvernement régional a donc exposé son plan. Des bateaux-citernes, comme je vous le disais, pourraient apporter de l'eau d'une usine de dessalement d'eau de mer située près de Valence 2 fois par jour. Par ailleurs, des stations de régénération de l'eau sont prévues et 2 nouvelles usines de dessalement seront construites. Problème, dans le meilleur des cas, elles seront opérationnelles en 2028.
Mais alors d'ici là, Sandrine, les bateaux-citernes suffiront?
Eh bien non, les bateaux-citernes couvriraient à peine 3% de la consommation de l'agglomération barcelonaise. L'idée est de tenir bon le plus longtemps possible en économisant l'eau et en tirant profit de chaque épisode de pluie, en espérant qu'il y en ait. Pour cela, dans 200 communes de l'agglomération barcelonaise et de la province de Gérone, la consommation est limitée à 200 litres par habitant et par jour. Pour les 6 millions de personnes qui y vivent, fini le gaspillage. Il est interdit d'arroser la pelouse, de laver sa voiture, de remplir sa piscine. Dans les clubs de sport, la moitié des douches des vestiaires sont fermées. Les agriculteurs, quant à eux, sont censés réduire leur consommation d'eau de 40%. Mais ce qu'ils peuvent creusent des puits de plus en plus profonds. Le secteur touristique, lui, est très inquiet. Pour faire face aux restrictions, des campings ont donc décidé de remplir leurs piscines avec de l'eau de mer. Et j'ai visité un hôtel de luxe qui a peint en vert les brins d'herbe sec et jaune de ses jardins pour donner l'illusion d'avoir une belle pelouse à ses clients.
Ah oui, on imagine. Alors que disent justement les Barcelonais?
Eh bien, après un long déni, le réveil est brusque. Il faut savoir qu'entre 2006 et 2008, La ville avait déjà connu 18 mois de sécheresse sévère et un bateau-citerne parti de Marseille avait même été affrété à l'époque pour approvisionner Barcelone. Or, quelques jours plus tard, il s'était mis à pleuvoir des trombes d'eau. Beaucoup, y compris dans l'administration, ont voulu croire que la situation se répéterait et que la pluie viendrait sauver la ville. Et puis, tant que l'eau coule dans les robinets, il est difficile de se projeter. Mais à présent, l'inquiétude monte, et la colère aussi, contre l'administration locale. Les uns lui reprochent de ne pas avoir prévu suffisamment d'infrastructures de production d'eau potable pour faire face aux changements climatiques qui s'accélèrent. Et les autres de ne pas poser de limites à l'agro-industrie ou au tourisme, des activités très gourmandes en eau. Pour tout vous dire, la situation est si désespérée qu'hier, le maire de Barcelone est allé demander aux religieuses du monastère de Pedralbes de prier pour qu'il pleuve.
Ah oui, c'est toute la question de l'adaptation. Merci Sandrine Morel.
Merci à vous, bonne soirée.
Et votre article, bien sûr, sur le sujet est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et via le lien lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Dans les trois dernières minutes restantes de l'émission, avec un sujet qui pourrait nous entraîner une heure supplémentaire. Dernière question peut-être, comment est-ce que vous voyez les uns et les autres l'avenir de l'agriculture en France justement? Qui veut commencer? Allez, Martin Rieussec-Fournier, c'est à vous.
Bah, nous, au niveau des mutuelles de santé, on voit l'avenir de manière très positive, non seulement en France, mais aussi en Europe. 50% de la solution pour une agriculture sans pesticides, c'est au niveau français que ça se joue, et 50% c'est au niveau européen. Culturellement, on a gagné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 8 Français sur 10, 8 Européens sur 10 ont compris que les pesticides tuent et qu'il faut s'en débarrasser. On a aussi gagné sur le plan scientifique parce que les preuves s'accumulent et se confirment que les pesticides sont dangereux pour la santé humaine et la biodiversité. Et on a bien évidemment le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau cap politique et les mutuelles de santé seront désormais autour de la table sur du temps long pour peser de manière à ce que la santé publique soit au cœur du nouveau projet agricole.
Merci. Pierre Le Bailly, peut-être de votre côté, là on entendait parler de l'Europe où on peut penser à l'EFSA, l'ANSES, des rôles à jouer aussi ou autres.
Oui, je voudrais revenir sur les déclarations pour dire que le plan Ecophyto fallait le mettre en pause parce que ça stresse les agriculteurs. Ce qui stresse les agriculteurs, c'est leur isolement. Ce qui stresse les agriculteurs, c'est ne pas avoir de cap clair en termes de politique agricole. Et donc, notamment, pour ceux qui se sont convertis à l'agriculture biologique, arrêter les aides une fois qu'ils ont la conversion, ce qui fait qu'il y en a qui reviennent à l'agriculture productiviste. Donc, on sait que notre pays est malheureusement leader sur les suicides, on n'en a pas parlé. Les agriculteurs, dans un pays leader dans les suicides en Europe, ils sont très touchés par les suicides, et c'est certainement pas avec les pressions environnementales que ça les stresse, c'est vraiment le problème de leur modèle économique qui et l'isolement, etc. Donc, arrêtez, rompons avec ça. Rompons avec cette agriculture qui isole les agriculteurs, qui les tue par des produits chimiques, et faisons en sorte que l'homologation ne soit pas déconnectée de la réalité du terrain.
Oui, un à deux suicides par jour, il faut le rappeler. Jean-Noël Jouzel.
Moi, je suis pas complètement sûr de partager l'optimisme de Martin Rieussec, mais parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas actuellement à sortir des pesticides, donc c'est inquiétant, évidemment. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est qu'on est un pays agricole et qu'en fait, c'est une chance. Hein, c'est une chance énorme par rapport au monde qui nous attend, au réchauffement climatique en particulier, parce qu'on a besoin de d'importer moins et de manger ce qu'on produit le plus près de chez nous possible. Ce qu'on a dit, je pense, au cours de cette émission, moi aussi, j'aimerais revenir sur un peu le contexte de crise agricole et puis le gouvernement Attal et... Bah, ce que je trouve très triste, moi, dans cette crise, c'est que sa résolution est passée par l'éternel face-à-face entre le syndicat majoritaire, la FNSEA, et le gouvernement, suivant une vieille tradition de co-gestion. Et en fait, il y a quand même un sentiment d'une forme de confiscation d'un débat démocratique, que j'espère que vraiment, faut appeler de nos voeux, quoi.
Bon, vous attendez la suite et en espérant que un peu de raison, on va dire, émerge.
Exactement.
En répondant aux attentes de l'opinion publique. Merci à tous les trois. Jean-Noël Jouzel, je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Giovanni Prete, L'agriculture empoisonnée, avec un sous-titre, Le long combat des victimes des pesticides, un livre paru aux presses de Sciences Po. Merci Pierre Le Bailly, merci Martin Rieussec-Fournier, et bien sûr, toute la biographie, les liens vers vos articles, et puis les sites sont à votre disposition, comme d'habitude, sur franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast réécoute. Vous y attendent à picorer sans modération.